ressuscité. À toi la victoire.
Bonjour chers amis, Daniel Zavagno au micro. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur le site de l'église protestante de Bligny et toute l'équipe de production vous souhaite la bienvenue. Soyez bénis par Jésus, notre Sauveur. Nous sommes à quelques jours de Noël. Nous voulons nous préparer à cette fête merveilleuse, nous rappelant la naissance du Sauveur, Jésus, Fils de Dieu. Il est vrai que bon nombre de nos contemporains ont oublié la signification de cette fête. Il est plutôt question de Père Noël, d'Inde, bûches, cadeaux. Malheureusement, le monde dans son ensemble célèbre plutôt une fête familiale que la naissance du Sauveur de l'humanité. Et que dire de ce Noël 2020 ? Il sera fêté en petit comité et certainement dans la morosité et la tristesse. Nous connaissons tous quelqu'un ayant été touché par ce sale virus, le Covid-19. Et cela impacte nos fêtes de fin d'année, année que nous voudrions au plus vite oublier. Mais que sera 2021 ? Nul ne peut le dire. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous approchons de Noël et nous savons que beaucoup de nos contemporains sont loin de penser à toi en ces jours. Nous te demandons de te révéler en ces temps difficiles, soit par un chant ou par une parole dite à propos, que ces temps difficiles puissent s'accompagner d'un temps d'arrêt et de réflexion. Attire les hommes à toi afin qu'ils connaissent le vrai Sauveur de l'humanité, toi Jésus, Fils de Dieu. Amen. Je vous propose un chant qui a pour titre « Noël est arrivé ». Malheureusement, nos médias ne nous proposent plus, comme par le passé, des chants de Noël sur leurs ondes. Je désire aujourd'hui vous faire découvrir des chansons de circonstance. Ce sont mes coups de cœur de ce jour.
Car est né le plus beau des mystères. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé. Un enfant nous est né, c'est Noël. Voici l'heure de minuit, le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. Voyez l'enfant endormi et innocent, le plus humble des rois, dans la paille et le froid. Il pleure pour nous, l'Éternel est à genoux, il soutient à présent notre jour. Et du fond de l'abîme jaillira la lumière, car déjà Jésus-Christ accomplit le mystère. Il vient briser la mort et nous donner la vie. Cet enfant, c'est notre Messie. Notre Messie. C'est Noël, voici l'Emmanuel, le salut de notre humanité. C'est Noël, la promesse éternelle, que nos vies ne s'éteindront jamais. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé, un enfant nous est né, c'est Noël. Voici l'heure de la nuit, où le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. Voici l'heure. Jésus-Christ dans notre humanité.
Non, Noël ne date pas d'hier, ni même de 2000 ans. Non, Dieu a eu l'idée de Noël il y a des milliers d'années. Vous êtes étonnés de ce que je vous annonce et vous croyez que je divague? Eh bien non, écoutez la lecture que je vais vous faire. Alors l'Éternel, Dieu, dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Ce texte se trouve dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 14. Nous sommes au début de l'humanité. Tout est parfait dans ce monde créé par Dieu. Tout semble beau et gentil, et même très bon, comme Dieu l'a dit. Mais malheureusement, l'homme vient de découvrir le péché, et par cela la chute, l'entraînant loin de Dieu. L'homme perdant ainsi tout contact avec son Créateur. Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne peut accepter cette perte de relation avec lui et sa création. Et Dieu va élaborer un plan de sauvetage pour l'homme. Un sauveur sera envoyé. Celui-ci sera son propre fils. Ésaïe, au chapitre 9, nous dit ceci, verset 5, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » La Bible nous propose un verset bien connu qui nous prouve l'amour que Dieu a pour l'humanité. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Voilà le message que nous voulons vous délivrer à l'approche d'un Noël pas comme les autres cette année. Mais ce qui n'a pas changé en ces temps troublés que nous vivons, c'est bien l'amour de Dieu, toujours prêt à accueillir quiconque vient à lui afin de se réfugier dans son amour. Chers amis, écoutons maintenant Glorious nous chanter Emmanuel. Chers amis, je vous propose d'écouter attentivement le message qui nous sera apporté par notre ami Jean-Luc Cardon Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour le partage de ce matin, je vous propose trois lectures. La première se fera dans l'Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Je lirai dans la version nouvelle français courant. Jésus leur dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Il souffrait cruellement dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Alors il s'écria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous, de là où vous êtes. » Le riche dit, « Je t'en prie, père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, où j'ai cinq frères, qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Une deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 9 à 11. Une foule nombreuse de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y allèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait relevé d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir Lazare aussi, parce que c'était à cause de lui que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. Et notre troisième lecture, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40. Alors quelques spécialistes des Écritures et quelques pharisiens dirent à Jésus, « Seigneur, nous voudrions voir un signe extraordinaire. » Jésus leur répondit, « Cette génération qui est mauvaise et infidèle à Dieu réclame un signe, mais aucun signe ne lui sera accordé, si ce n'est celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. » Quelques précisions avant de commencer notre partage. Premièrement, notre première lecture est une parabole, c'est-à-dire une histoire qui reprend des faits de la vie courante pour illustrer une ou plusieurs vérités à retenir et où mettre en pratique. Dans la parabole du riche et de Lazare, nous ne ferons pas l'étude du récit complet lui-même, mais nous ne retiendrons que la conclusion. Deuxième précision, Lazare que ressuscite Jésus n'est pas le même homme nommé aussi Lazare dans la parabole. Et troisièmement, le mot « signe » est parfois traduit par « miracle » et j'utiliserai indifféremment les deux comme l'ont fait les traducteurs du Nouveau Testament. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Sans elle, je serais certainement errant, toujours en recherche d'identité, assoiffé de justice et affamé de vérité. Seigneur, que nous puissions nous laisser guider par cette boussole vers le cap de ton amour pour nous. Remplis-nous de ta présence, même en confinement. Amen. Ça y est, il est arrivé. Tous les journaux l'ont mis en gros titre sur la première page. Toutes les radios en parlent. Toutes les caméras de télévision sont branchées sur lui. Des reportages où l'on peut voir défiler des petites fioles par centaines, milliers, que dis-je, par millions. Ça y est, il est là. Le vaccin est arrivé. Enfin, le Covid-19 va être vaincu. Ce fameux vaccin annoncé comme le miracle. Le miracle qui va nous libérer de notre confinement, qui va nous permettre de retrouver une vie normale. Enfin, nous pourrons de nouveau faire nos courses tranquillement, aller se faire soigner sans la boule au ventre, enfin de retour chez le coiffeur, manger un morceau au resto et enlever ce fameux masque qui nous cache l'autre et son sourire ou l'autre et son humeur. Et ranger le gel hydroalcoolique qui nous donne des mains plus riches que du papier verré. Comme le sauveur du monde, le vaccin contre le coronavirus est annoncé en grande pompe. Il est devenu l'essentiel, la solution. Le miracle de l'homme, la science a vaincu le méchant virus. Vaccin sauveur entre dans le monde par la grande porte. Gloire au vaccin Covid-19, voilà notre libérateur. On se croirait à Jérusalem le jour dit des rameaux, mais je pencherai davantage à la scène du veau d'or dans le désert. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 32, verset 4. Le vaccin miracle. Miracle. Définition du dictionnaire Larousse. Fait, résultat étonnant, extraordinaire, qui suscite l'admiration. Les miracles de la science. Ou choses merveilleuses en son genre. Exemple, le Parthénon est un miracle d'architecture. Ou encore, hasard merveilleux, chance exceptionnelle. C'est un miracle qu'il ait échappé à la mort. Définition biblique, très résumée, extrait d'un site d'études bibliques, justement. Les Écritures nous montrent que les miracles sont des interventions divines contre les lois de la nature. Un miracle est une intervention surnaturelle contre le naturel. Jusqu'ici la citation. Pour nous chrétiens, le miracle devrait être toujours issu d'une intervention divine. Dieu devrait, en tous les cas, être reconnu comme l'auteur des faits qui nous surprennent. Bien qu'il puisse utiliser des moyens tout à fait naturels pour arriver à ses fins, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est évident que l'on puisse expliquer certains miracles. Bien des chercheurs s'y sont attelés, et nous ne pouvons pas non plus nier que leurs conclusions sont parfois correctes. Je voudrais citer un exemple, le passage de la mer Rouge par le peuple sortant d'Égypte, peut-être démontré par un vent violent qui aurait fait reculer les eaux. Mais le miracle décrit par la Bible, c'est que ce fait s'est déroulé au bon moment pour les Israélites. Si c'était arrivé trop tôt, ils n'auraient pas eu le temps de traverser. Et si c'était arrivé plus tard, ils se seraient fait massacrer par les troupes de Pharaon. Ceci dit, personnellement, je crois à une intervention beaucoup plus divine. Le texte nous dit qu'effectivement, Dieu a fait souffler un vent impétueux et que le peuple a traversé à pied sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche, nous dit le verset 22 du livre d'Exode 14. Pour soulever la mer, il fallait une véritable tornade, qui aurait dû souffler les femmes et les hommes comme de vulgaires fétus de paille. Mais rien n'y fait, le peuple est passé sans encombre. Nous ne dirons pas la même chose de l'armée égyptienne. Mais d'autres récits miraculeux de la Bible sont difficilement explicables. Prenons le passage de Josué 10, versets 12 à 15. Les Israélites sont en guerre avec les Amoréens et la bataille n'en finit pas. Pour clôturer, il faudrait encore du temps. Josué, qui dirige le peuple, s'en remet à l'Éternel et s'adresse au soleil et à la lune et les somme de s'arrêter. Ce qui eut lieu. Nous savons pertinemment bien que selon les lois naturelles, c'est impossible. D'abord, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et pour arriver à ce phénomène, cette boule qui tourne sur elle-même à approximativement 2000 km/h doit s'arrêter avec toutes les conséquences que cela entraînerait. Soit elle freine d'un coup et tout ce qui est à sa surface qui n'est pas attaché serait propulsé, soit elle s'arrête lentement et l'attraction terrestre écraserait tout à sa surface. Ce récit ferait-il partie d'un bon film de science-fiction ? Pourtant, il nous est revenu des récits d'un jour ou d'une nuit qui durèrent plus longtemps que la normale. À Tahiti, par exemple, une légende raconte qu'un prêtre qui construisait un temple saisit les rayons du soleil pour l'arrêter afin de terminer sa construction. Coïncidence ? On raconte que les Indiens d'Amérique vécurent un jour complet sans soleil, ce qui fit déborder le lac Teomi. Coïncidence ? Les Japonais et les Caraïbes ont une tradition relative à un temps où le soleil se cacha dans une caverne. Coïncidence ? De l'Inde à la Scandinavie, nous retrouvons ce genre de faits racontés. Coïncidence ou miracle ? Pourtant, rien n'y a fait. Les hommes et les femmes de toute la terre ne se sont pas tournés vers Dieu pour autant. C'est ce que Jésus veut démontrer dans la conclusion de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Verset 29 de Luc 16, Abraham répondit : « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Autrement dit, vous avez la Bible, lisez-la. J'entends parfois des gens dire que Dieu n'existe pas, parce qu'il ne parle jamais. Et la semaine dernière, dans une émission religieuse, un des participants déclarait, je cite, « Dans cette situation, il est grand temps que Dieu se manifeste. » Et j'étais là, moi, derrière mon écran, à lui crier. Mais hélas, il ne m'a pas entendu. « Il y a déjà longtemps qu'il l'a fait. La nature, la Bible, Jésus, tout nous parle de Dieu. » Il nous a tout donné pour nous sauver. Mais qui en veut vraiment ? Même chez les chrétiens, quelle tristesse de voir parfois le manque de foi par rapport à ce Covid. « Miracle, le vaccin est là !» Même connaissant les Écritures, nous voulons du miracle. Mais comment connaissons-nous les Écritures ? Relisons quelques versets de Matthieu 12. Alors, quelques spécialistes des Écritures et quelques pharisiens dirent à Jésus, « Seigneur, nous voudrions voir un signe extraordinaire. Seigneur, donne-nous un miracle !» « Fais un miracle !» Et Jésus de répondre, « Cette génération qui est mauvaise et infidèle à Dieu réclame un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est celui du prophète Jonas. » En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Jésus n'est pas en face de Monsieur Tout-le-Monde. Il est en présence des érudits de la Torah, les professionnels des écrits de l'Ancien Testament, les théologiens de son époque, les professeurs d'université des écrits divins. De nouveau, Jésus renvoie la Bible, parole de Dieu. Il n'a pas peur de citer le livre le plus controversé, Jonas. Combien ce récit a été critiqué, même pour l'intégrer dans le canon hébraïque. Avec Job, Jonas est un des personnages bibliques les plus connus de l'homme de la rue. Il a inspiré bien des écrits et des histoires. Nous aurons tous en tête l'histoire de Pinocchio de Walt Disney. Mais au-delà d'un beau livre pour enfants, il est un écrit biblique nous rapportant un miracle, un signe de Dieu. Ce livre est à étudier en profondeur, et c'est le cas de le dire, tant il est rempli d'enseignements sur Dieu et sa patience, sur Dieu et sa compassion, sur Dieu et son amour, sur Dieu et la manière d'arriver à ses fins, même en dépit d'un homme, fût-il prophète, mais ô combien rebelle. Jésus lui-même le désignera comme le prophète Jonas. Mais quel est ce miracle du prophète Jonas ? On a écrit et discuté pas mal sur ces paroles de Jésus le reliant au prophète Jonas. Le miracle est la conversion des Ninivites, peuple athée notoire et cruel. ou Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson. Effectivement, c'est un miracle. Si je reprends ma définition de départ, c'est une intervention surnaturelle de Dieu. C'est lui qui orchestre le tout. Mais si je vais un peu plus loin, un miracle est un signe de Dieu qui accompagne ceux qui ont cru, selon l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Les 3 jours que Jonas a passés dans le ventre du poisson et qu'il en est sorti vivant prouvent qu'il est bien un envoyé divin. Les habitants de Ninive connaissaient la légende qui décrit la fondation de leur ville par une divinité mi-homme, mi-poisson, qu'ils ont certainement pris pour un récit historique. Cette légende a été retrouvée gravée sur un bas-relief de la ville. Alors, quand ils apprennent que Jonas est sorti indemne de la gueule d'une créature marine, ils acceptent beaucoup plus facilement ces paroles comme venant de Dieu, et ils se convertissent. Le rapprochement que Jésus en fait avec lui, c'est le signe, le miracle de sa mort et de sa résurrection en 3 jours. Certains hommes ont fait des choses extraordinaires et qui sont morts. Lui, le Fils de Dieu, a fait beaucoup de choses miraculeuses, toujours dans le but de mener à la repentance et au salut par sa connaissance. Ses 3 jours dans le tombeau et sa sortie prouvent au monde entier que ce qu'il dit est vrai. Il est le Fils de Dieu envoyé sur terre pour libérer. Mais je voudrais reposer la même question que le prophète Ésaïe au chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dans quelques jours, nous allons fêter Noël, qui nous rappelle la première venue de Jésus. Voilà ce qu'un envoyé de Dieu annoncera au berger. Luc 2, verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Le mot grec pour signe est séméion, qui désigne aussi miracle. Voilà à quel miracle vous le reconnaîtrez. Ce miracle, ce signe, servira à reconnaître Jésus. Tous les miracles décrits dans la Bible ont été donnés pour mener à la reconnaissance de Dieu et de sa sainteté. Je nous pose la question, est-ce que le miracle vaccin Covid-19 va mener le monde à reconnaître Dieu pour vrai? Pas sûr. Mais relisons la fin de la parabole du riche et du pauvre Lazare. Luc 16, verset 30-31. Le riche dit, « Cela ne suffit pas, père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Même un super miracle ne peut rien changer. Quand la foule vient pour rencontrer Jésus après la résurrection de Lazare, récit que nous avons lu dans Jean 12, il nous est dit que la foule est venue non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Les gens se convertissaient parce qu'il liait les deux, Jésus et le miracle de la résurrection de Lazare. De même, la conversion des Ninivites est liée à Jonas, reconnu comme envoyé de Dieu par son miracle. Et l'expansion de l'Église sera liée à Dieu par le miracle de la résurrection de Jésus et le miracle de la venue du Saint-Esprit. Si nous ne relions pas les signes, les miracles à notre Père céleste, rien n'y fera. Le signe du petit enfant emmailloté dans une crèche nous montre que notre Dieu fait dans la discrétion. Il est évident qu'il peut employer les grands moyens, mais il sera davantage dans le murmure doux et léger, que dans le vent fort qui déchire les montagnes, que dans un tremblement de terre, que dans le feu. Tout comme il répondra lui-même à son prophète Élie dans 1 Roi 19, 11, 12. De toute sa puissance, de toute sa force, de toute son énergie, Dieu nous donnera comme signe celui d'un frêle petit enfant couché dans une mangeoire. Il est possible que notre Dieu souverain utilise la science et la médecine pour guérir et pour soulager, il l'a déjà fait. Tout ce qui se fait dans notre monde n'est pas à rejeter, sinon nous risquons de devenir extrémistes et de dénaturer la Bible et son message. Mais tout miracle doit être relié à Dieu, et toute la gloire doit lui revenir. Alors, à quel miracle, à quel signe allons-nous reconnaître notre Seigneur? Je vous quitte avec cette question et vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre culte de Noël en confinement. Noël sera certes bien différent cette année, mais justement, n'est-ce pas cela le signe, le miracle qui va nous rapprocher de notre Sauveur? Miracle. Vous avez dit miracle? Amen. Prions. Seigneur, nous te cherchons souvent dans l'extraordinaire, alors que tu te révèles souvent dans la simplicité de l'ordinaire. Dans nos silences, dans nos solitudes, dans nos angoisses, tu nous rejoins, tu nous accompagnes, tu fais un bout de chemin avec nous. Puissions-nous te reconnaître dans les signes, les miracles nous considérons comme insignifiants. Mais tu es un grand Dieu à qui tout est possible. Tu es le Dieu de l'impossible, mais tu es descendu pour me rencontrer. Tu t'es mis à ma hauteur pour ne pas m'écraser. Tu es venu me prendre la main pour que là où tu es, je sois aussi. Merci de ces miracles de Bethléem et de Golgotha. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Le chant que vous venez d'entendre était interprété par le chœur de l'Armée du Salut. Je vous rappelle notre rendez-vous de prière à la maison tous les mardis entre 19h et 19h30. Rappelons-nous le partage de notre frère Paul la semaine dernière sur l'importance de l'intercession. N'hésitez pas à visiter le site des communautés d'Herstal-Sherat avec lequel nous sommes en synergie. Et n'hésitez pas non plus à consulter la page de Blény disponible sur le site et sur la page Facebook de Épub Blény. Sur cette page, vous trouverez le numéro de compte pour verser votre offrande. Que l'amour de Dieu, notre Père, l'affection de notre Seigneur Jésus-Christ et l'éclairage du Saint-Esprit nous fassent regarder uniquement au miracle pour la gloire de Dieu seul. Restez prudents dans la paix et la joie du Seigneur. Amen.